Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et maintenant, nous allons évoquer la colère d'une partie du monde musulman contre la France. Bonjour Jean-François Bayard.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes professeur à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement à Genève, titulaire de la chaire Oframa Religion et Politique dans le Contemporain. Jean-François Bayard, il y a une sorte d'enchaînement causal, finalement assez compliqué, entre la reparution des caricatures de Mahomet, l'attentat contre l'ancien siège de Charlie, et puis l'attentat contre Samuel Paty, sa décapitation par un terroriste islamiste, et les déclarations d'Emmanuel Macron. Et c'est véritablement à ce moment-là que la colère a surgi dans le monde musulman. Comment interpréter cet enchaînement causal ?
En premier lieu, il faut bien voir que le débat en France à propos de l'islam n'est pas apaisé, c'est le moins que l'on puisse dire, et que certaines déclarations d'hommes ou de femmes politiques, et d'intellectuels d'ailleurs, y compris d'intellectuels de gauche, dénotent une certaine hystérisation du débat. C'est un fait, on pourrait y revenir si vous le souhaitez.
À quoi pensez-vous ?
Je pense, par exemple, à toutes les attaques contre les islamo-gauchistes, l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui dit que expliquer, c'est justifié. Bon, c'est un climat délétère depuis pas mal d'années.
C'est un climat délétère, mais il n'explique pas la colère du monde musulman.
Non, mais il faut quand même situer, parce que ce qui amorce la colère du monde musulman, expression d'ailleurs qu'il faut nuancer, parce qu'en réalité, comme en France, ce sont les plus vocaux, comme on dit en anglais, ce sont les plus vituperants que l'on entend. L'immense majorité de ce que l'on appelle les pays musulmans reste quand même assez tranquille face à cette colère. Donc c'est un peu la montée des extrêmes des deux côtés. Mais du côté français, il y a quand même une hystérisation, et par exemple, après l'assassinat contre Samuel Paty, on n'a pas entendu l'équivalent laïque de la voix du pape François après l'assassinat du père catholique dans la banlieue de Rouen il y a quelques années, qui avait dit il n'y a pas de violence islamique, ou dans ce cas-là il faudrait parler d'une violence catholique. On n'a pas
sûr,
entendu l'équivalent
du côté... Je ne comprends pas très bien l'équivalence que vous faites entre les propos, et vous avez évidemment le droit de faire tous les commentaires que vous souhaitez sur les propos tenu par tel et tel, notamment sur l'expression d'islamo-gauchiste, puisque c'est celle que vous visiez, et la colère notamment de Recep Tayyip Erdogan et les menaces qui sont dirigées contre la France ou encore contre Charlie Hebdo, puisque j'ai vu le tweet lancé par son ministre adjoint à la culture cette nuit, très offensif contre Charlie Hebdo.
Le lien, le prétexte de la colère entre guillemets du monde musulman et en tout cas de celle du président Erdogan, ce sont ses déclarations, mais également un certain nombre de prises de position qui n'ont rien à voir avec le débat sur l'islam, de la France dans des dossiers dans lesquels la Turquie est impliquée. Alors évidemment, Erdogan saisit ces polémiques en France, saisit toute une série de faits divers, épaulés par une presse qui est très largement sous contrôle, pour faire flèche de tout bois et ériger la France, au prix d'un certain nombre de délires et de dérapages sémantiques, comme au lieu de la persécution contre l'islam. Alors comment expliquer ce fait ? D'abord parce que Erdogan est un personnage assez sanguin, du genre « retenez-moi ou je fais un malheur ». Et évidemment, en face, si vous avez des gens qui ne le retiennent pas, le débat tente à déraper. Les vituperations d'Erdogan, qui sont évidemment inadmissibles, ne serait-ce que du point de vue des usages diplomatiques, s'expliquent largement par la situation difficile dans laquelle lui-même s'est mis. Situation difficile sur le plan économique, avec un dévissage de la livre turque. Or, il faut savoir que le soutien populaire à Erdogan n'avait pas grand-chose à voir avec la religion, mais tout à voir avec les gains de croissance qu'il avait assuré depuis le début des années 2000 à l'économie turque et le bien-être qui s'en était suivi pour la population au prix d'un très gros endettement intérieur. Et puis deuxième situation que l'on n'évoque pas suffisamment, c'est que la Turquie, elle aussi, a perdu le contrôle de la pandémie de Covid-19, notamment à Istanbul et à Izmir. Et il est toujours bon de faire oublier ce genre de réalité. Ensuite, vous avez des dossiers diplomatiques sur lesquels la France et la Turquie sont en confrontation. Je pense à la Libye, où la France a appuyé en sous-main le maréchal Haftar, alors que la Turquie a le beau jeu de se placer du côté du gouvernement considéré comme légitime par l'ensemble de la communauté internationale, y compris d'ailleurs la France. Vous avez le dossier du Haut-Karabakh et vous avez le dossier de Chypre et le dossier du gaz. Et là, par exemple, sur ce dernier dossier, il faut voir que Macron a été très offensif, puisque il a appuyé militairement la Grèce en participant à des exercices militaires. On peut considérer que c'est tout à fait normal de la part d'un pays de l'Union européenne que d'appuyer son père. Le dossier français eût été plus transparent si on n'avait pas appris qu'en même temps la France vendait des Mistral à la Grèce.
Mais alors, justement, Jean-François Bayard,
des rafales.
Mais alors, est-ce que l'on peut dire que aujourd'hui Erdogan fait cela parce que le roi est nu, un peu d'ailleurs comme il est représenté sur la couverture de Charlie Hebdo cette semaine? Est-ce qu'il est aujourd'hui dans une situation où il lui faut faire un écran de fumée? Il est aussi question d'ailleurs de libérer Jérusalem, dit-il, il dit Al-Quds. Est-ce qu'il s'agit d'abus de véritable ou d'une manière de détourner l'opinion publique turque de ses échecs intérieurs?
Vous avez un plan, une vision stratégique qui est à la fois expansionniste mais très limitée dans ses ambitions réelles et dans ses moyens, même si la Turquie a développé des moyens militaires, par exemple en matière de drones, qui lui donnent une véritable capacité sur le terrain. Donc vous avez cette vision géostratégique, et je crois qu'il faudra revenir sur ce point dans un instant. Et puis, comme je le disais, vous avez en effet la nécessité pour Erdogan de conforter sa base électorale en lui donnant des gages symboliques, comme par exemple le retour dans le giron de l'islam du musée de Sainte-Sophie, pour faire bonne mesure de la Carrière, une autre grande église byzantine qui avait été transformée en musée par le kémalisme et qui est revenue à son statut ottoman de mosquée. Donc vous avez cet aspect, on va dire, de démocratie, je n'aime pas tellement le terme, enfin peu importe, de démocratie libérale qui fait flèche de tout bois, et de ce point de vue Erdogan est tout à fait comparable par exemple à Orban en Hongrie. Mais la question essentielle, c'est que aujourd'hui l'Europe doit reconnaître qu'elle a perdu la Turquie, comme on dit dans le langage diplomatique ou géostratégique, et que sa propre responsabilité, la responsabilité de l'Europe, est énorme. Le tournant a été pris quelque part entre 2004 avec les déclarations de Valéry Giscard d'Estaing et de Nicolas Sarkozy en France, excluant toute possibilité d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, nonobstant tous les engagements diplomatiques qui avaient été pris par la France et par l'ensemble des pays européens, notamment lors d'un sommet à Helsinki à la fin des années 1990. Et 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy qui, évidemment, s'était prononcée contre toute perspective d'adhésion. Et là, Erdogan et la Turquie comprennent en 2007 que Merkel, opposé à l'adhésion de la Turquie, plus Sarkozy dans une France qui jusqu'à présent laissait ouverte cette possibilité, qu'il n'y avait plus d'avenir européen pour la Turquie. Et le revirement nationaliste d'Erdogan, antidémocratique, se situe à ce moment-là. Et la responsabilité de l'Europe est énorme, parce que je me permets de renvoyer un papier que j'avais écrit dans Le Monde le 6 octobre 2004, Le populiste et sa tête de Turc, où j'interrogeais l'opinion française et européenne. Certes, il y a peut-être un coût de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, encore que celui-ci eût été très largement exagéré et posé dans des termes fantasmatiques, mais personne n'a voulu se poser la question du coût de la non-adhésion dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire la porte que l'on refermait au nez de la Turquie. Et là, c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que la Turquie a développé une stratégie de freerider, de cavalier seul sur la scène internationale, qui naturellement est hautement préjudiciable aux intérêts et à la sécurité de l'Europe. Et cela, l'Europe n'a pas voulu le voir dès le début des années 2000, et maintenant nous avons à en payer le prix.
Il y a dans le Financial Times un article sur la rivalité entre Recep Tayyip Erdogan et le cheikh Mohammed Ben Zayed des Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis ont normalisé leurs relations avec Israël. Il y a une stratégie, un axe qui se met en place. Est-ce que là aussi, il ne faut pas replacer les sorties d'Erdogan dans ce contexte-là, Jean-François Bayard ?
Bien sûr, et d'autant plus que la Turquie cherche à se poser en porte-parole du monde arabe, ou du monde musulman plus exactement, outragé par les excès des laïcistes français. Mais la vérité, c'est que la Turquie est elle-même très isolée sur la scène, comme l'on dit, arabo-musulmane. Elle est dans une relation antagonique avec plusieurs des acteurs majeurs de la région, avec d'ailleurs des hauts et des bas, des stratégies d'alliance changeantes qui sont compliquées, mais la Turquie a perdu beaucoup de son influence dans le monde arabo-musulman, influence qu'elle avait su conforter par un soft power, notamment dans le domaine télévisuel, dans le domaine des relations aériennes, depuis quelques années. Donc la Turquie, si vous voulez, la surenchère d'Erdogan s'explique également par l'isolement de la Turquie sur la scène moyen-orientale. Et la vigueur de son propos à propos au sujet de la Palestine s'explique également de cette manière. Erdogan cherche à prendre la tête du front du refus, comme l'Iran, par exemple, a essayé de le faire à certains moments. Donc, le jeu d'Erdogan n'est pas si brillant que cela sur la scène régionale. Et cela explique en grande partie ses démonstrations de force et ses propos vigoureux.
Et alors, il y a un pays qui a réagi violemment contre la France, un leader, c'est Kadyrov, le président tchétchène, qui a expliqué que le terroriste en substance, c'était Emmanuel Macron, au travers de ce qu'il avait dit sur les musulmans. C'est un peu compliqué de comprendre là aussi à la fois les relations entre la Tchétchénie et la Russie, notamment par rapport au monde musulman, puisque on voit d'un côté les tensions entre la Turquie et la Russie, et de l'autre la Tchétchénie qui semblerait embrayer le pas à Erdogan. Comment vous expliquez ça, Jean-François Bayard ?
C'est la raison pour laquelle le prisme de l'islam que l'on met en avant en France dans un débat assez délétère doit être relativisé. Vous me permettrez un petit point de méthode. Quand on travaille sur le religieux, il y a deux pièges à éviter. Le premier piège, comme le dit l'historien Paul Venn, c'est celui de la surinterprétation religieuse, c'est-à-dire de mettre du religieux là où il peut sembler y en avoir, mais en réalité, il y a d'autres enjeux qui se jouent. Puis le deuxième piège à éviter, c'est celui du matérialisme vulgaire qui nie les logiques intrinsèques de la foi. Il faut arriver dans l'analyse des faits à se faufiler entre ces deux écueils. Alors, dans le cas de la Tchétchénie, et pour parler comme le camarade Mélenchon de la communauté tchétchène, il faut voir que celle-ci est issue d'une histoire, d'une violence absolument extraordinaire. La conquête du Caucase par la Russie au XIXe siècle, qui a provoqué l'exode de millions de réfugiés. Ensuite, l'épisode stalinien qui s'est traduit par la déportation et l'extermination de nombre de peuples, dont les Tchétchènes. La Seconde Guerre mondiale, où les troupes caucasiennes, les troupes soviétiques caucasiennes ont payé un très très lourd tribut. Et ensuite, on l'oublie, au début des années, tout au long des années 1990, la répression sauvage, épouvantable, de la guerre d'indépendance de la Tchétchénie par Boris Yeltsin et ensuite Poutine, qui voulait buter les terroristes jusque dans les chiottes. Et il y est parvenu. Et Kadyrov, c'est le produit de cette histoire. C'est-à-dire que Kadyrov, c'est un président mis en place par Poutine et qui développe un salafisme d'État pour museler sa population avec des moyens d'une violence extrême. Donc, on peut difficilement comprendre les philippiques du président, enfin, du pseudo-président Kadyrov d'une part, et d'autre part, certaines formes de violence dans une partie des réfugiés réfugiés tchétchènes en France sans prendre en considération cette histoire d'une violence et d'une cruauté extraordinaire. Et la règle est générale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre Al-Qaïda sans l'implantation militaire des États-Unis dans la péninsule arabique à la faveur de la guerre du Koweït en 1990-1991. Vous ne pouvez pas comprendre Daesh sans l'occupation militaire, l'occupation américaine de l'Irak, et vous ne pouvez pas comprendre le phénomène du djihadisme au Sahel sans l'intervention française à partir de 2007-2008, hein, une intervention que les Français ont oublié et qui ont aggravé le problème du djihadisme, sans compter que celui-ci en réalité est le symptôme d'une crise agraire. Donc je pense que lorsque l'on parle de l'islam, lorsque l'on parle du djihadisme, lorsque l'on parle de cette colère entre guillemets du monde musulman, mais en réalité les choses sont beaucoup plus compliquées et nuancées que cela, il faut quand même avoir l'intégralité de la photo.
Bien sûr, mais Jean-François Bayard, lorsque vous parlez d'hystérisation du débat en France, alors différentes opinions sont exprimées, impossible de les synthétiser, mais beaucoup évoquent le théologico-politique, c'est-à-dire l'instrumentalisation de l'islam, et alors s'il y a un lieu où elle est instrumentalisée, ce peut être aussi bien en Turquie qu'en Tchétchénie, puisque vous l'avez dit, on a quasiment affaire à une guerre entre djihadistes, vous parlez de salafisme d'État, on voit bien qu'on a instrumentalisation, mais c'est au nom de l'islam que tout ceci est instrumentalisé, sauf erreur de ma part.
L'islam, c'est l'idiot utile dans cette histoire, et vous pouvez faire dire à l'islam comme au catholicisme, politiquement tout est le contraire de tout. Mais prenez par exemple le conflit du Haut-Karabakh dans lequel la Turquie s'est impliquée. On ne peut pas dire que la Turquie épaule l'Azerbaïdjan contre l'Arménie pour des raisons religieuses. D'ailleurs, je voudrais mentionner que Erdogan, tout musculeux qu'il soit, était il y a quelques jours dans une église arménienne à Istanbul pour les obsèques d'un député de son parti d'origine arménienne, Markar Essayan, et ça ne le dérange absolument pas d'aller dans une église arménienne pour ce faire. Donc la dimension religieuse du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie...
C'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation de la religion, effectivement.
C'est l'instrumentalisation de la religion, ou c'est l'instrumentalisation de la laïcité, puisque l'on voit bien qu'une partie de la classe politique française instrumentalise l'idée de la laïcité, généralement d'ailleurs au mépris de ce qui a été véritablement l'idée laïque par les pères fondateurs de la Troisième République pour des raisons de politique intérieure. Et ça, il faut quand même.
Sauf s'il vise encore une fois un théologico-politique, et en matière de liberté d'expression, il est loisible de le faire en France, Jean-François Bayard.
Bien entendu, le religieux, c'est un répertoire de thèmes, d'imaginaires, etc. Et vous pouvez l'instrumentaliser d'une manière ou d'une autre. Le risque de l'inimitié complémentaire dans laquelle s'enfoncent les laïcistes d'une part et d'autre part les salafistes ou les djihadistes, c'est de se nourrir et de nourrir mutuellement la conflictualité.
Bon. Et ça, c'est très grave. Votre permission, je ne mettrai pas sur le même plan laïciste et salafiste, mais hélas, le temps nous impose d'en rester là. Jean-François Bayard, merci beaucoup pour votre éclairage.
Merci,
dans quelques instants, nous évoquerons tout autre chose, nous changerons les idées avec du cinéma Garçon Chiffon, le film de Nicolas Maury qui sera en salle aujourd'hui, et une grande actrice dans ce studio, Nathalie Baye, 8h sur France Culture.